Bienvenue dans un nouvel épisode du MC Talks. Les lapins crétins, les Tic Tac, le cousin d'Adibou ou encore les trésors de Kellogg's ont tous un point en commun, leur voix. Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours d'une des voix françaises les plus mythiques. Avant de faire écouter ma conversation avec Pierre-Alain, je vais vous faire passer un petit message. Je ne pensais pas que faire ce podcast me plairait autant. Alors oui, je passe un temps fou à envoyer des messages à des potentiels invités qui ne me répondent jamais. Je passe aussi un temps fou à monter les épisodes. Mais rencontrer ces personnes et vous inspirer me procure un bonheur dingue. Si vous voulez m'aider à continuer ce rêve, il faut que le MC Talk soit de plus en plus visible. Et la seule solution pour être visible, c'est de me laisser 5 étoiles, de me laisser un commentaire, de cliquer sur « Je m'abonne » et d'en parler autour de vous. C'est gratuit et ça change une vie. J'avoue que j'ai pris un ton un peu grave. Mais bon, encore merci et bonne écoute. Parfois déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique et quelquefois étonnant.
Ouais, donc c'est marrant comment je t'ai rencontré parce que j'allais me coucher et il y a ma copine, ici on dit ma blonde, qui me dit « Tiens, t'as vu sur TikTok, il est énorme ce mec, il fait les voix de toutes les vidéos TikTok, de tous les... il a fait tous les dessins animés, enfin Dibou, plein de trucs de jeux vidéo. » Je fais « Bah non, je connais pas du tout, je vais écouter. » Là, je fais « Bah oui, en fait, je le connais, je l'ai jamais vu et je me suis jamais intéressé à lui. » Et là, je t'ai découvert et elle m'a dit « Faut que tu le rencontres,
c'est cool.
Discute avec lui.
» C'est gentil. Bah, tu diras bonjour à ta blonde, hein, comment elle s'appelle?
Elle s'appelle Clara.
Salut Clara. Salut Clara. Oui, je suis un vieux sage de 6350 ans. J'ai bien connu Moïse, un grand pote à moi, un oncle à moi. Enfin, un oncle, j'étais son oncle, mais bon.
Alors voilà déjà, dis-nous un peu qui tu es là justement. Qui c'est qui, le Padge? Parce que je t'appelle le Padge, mais c'est Pierre-Alain ton prénom, c'est ça?
Oui, mais Padge, tout le monde m'appelle Padge. Avant qu'on commence, puis après on commencera pile poil sur le truc, je commencerai. Ouais. C'est marrant parce que tu m'as découvert sur TikTok, mais sur mon premier compte.
T'es découvert sur le compte où tu fais toutes les voix. T'as le compte où tu fais plus des trucs de motivation, on va dire.
Voilà, c'est ça. C'est celui-là qui est en fait, il marche tellement qu'il va dépasser l'autre dans un mois et demi, il dépasse l'autre.
Mais TikTok, c'est aussi incroyable. Hein.
Bah oui, bien que ça marche moins bien, d'après ce que m'a dit les gens de TikTok d'ailleurs en ce moment, à cause de, enfin, là, ils changent les algorithmes. Ouais. Mais non, j'ai de la chance. Les gens, ils sont. Ils adorent les conneries que je fais, etc. Mais ils sont encore plus accros et c'est pas du tout la même communauté d'ailleurs que les.
J'imagine.
Que voilà, donc comme je fais des trucs un peu spirituels et voilà. Alors tu voulais, alors je me présente comme si on commençait le podcast. Tu verras ce que tu fais.
Ah, par contre, je ne fais quasiment pas de montage.
Ah oui, d'accord. En fait... Donc c'est parti comme ça. Donc je reviens en arrière. Donc je m'appelle donc Pierre-Alain Degarrigue en quatre mots et Et tout le monde m'appelle Padge, évidemment, parce que Pierre-Alain Degarrigue, c'était beaucoup trop long au temps des ordinateurs numériques, quand il a fallu mettre les gens qui faisaient dans les séances, les gens qui faisaient pour mettre le nom du comédien qui était sur une des pistes. Et en fait, il y en a un qui a mis Padge et c'est devenu un acronyme, c'est devenu une marque quelque part. C'est-à-dire tout le monde m'appelle Padge. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ne savent pas du tout comment je m'appelle, mais qui m'appellent Padge. Alors, ça c'est Padgeos, Padginou, voilà. Et maintenant, dans les conventions, dans les invitations, dans les conférences, dans toute la communication, on dit plutôt Padge que Pierre-Alain Degarrigue. De toute façon, voilà, la communauté geek et la communauté du gaming me connaissent sous le nom de Padge, de toute façon.
Et puis ça sonne vraiment bien. C'est le Padge. Je trouve que ça sonne vraiment bien.
Et... Ouais, ça sonne bien. Oui. Et puis c'est facile. Ouais. Ben c'est comme tout le monde a des. Alors bizarrement, j'ai donc ce surnom, je dirais, mais puisque quand même on est dans une dynamique de geekerie, c'est-à-dire depuis quelques années ou depuis longtemps, mais dans le jeu vidéo et surtout depuis les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui ont et dans le gaming qui ont des comment on appelle ça
des surnoms
des surnoms, oui, enfin
des pseudos, hein.
Des pseudos. Ouais. Voilà, donc les pseudos, voilà, et donc c'est un pseudo qui a tout de suite marché, quoi. Donc j'associe, j'associe toujours ce Padge à tout ce que je fais maintenant. Et donc, pour continuer la présentation, moi, je viens d'abord au niveau des origines. Je ne parle pas des origines, j'allais dire raciales, je ne sais pas si on dit ça d'ailleurs.
Ouais, je sais.
Oui, enfin, humaine. Bon, ça ne paraît pas comme ça, mais j'ai quelques métissages un peu différents. Et on est très métissé dans la famille aussi du côté de la filiation, je dirais, puisque ma fille et sa maman est martinico-hindoue.
Qui est chanteuse d'ailleurs, on peut peut-être juste
chanteuse,
un petit mot sur elle rapidement.
Super, chanteuse, c'est une super. Alors moi, je chante pas mal du tout. Je suis en train de faire un album.
Ouais, toi aussi, la musique, on en parlera, je pense.
Ouais, ouais. Et c'est un autre level. Et je suis en train de produire son album. Et maintenant, ça y est, depuis quelques semaines, elle a intégré ma boîte de production. Donc, elle est avec moi. C'est elle qui écrit en anglais mes morceaux au niveau des paroles. Parce que je ne suis pas assez bon en anglais, au niveau des paroles en tout cas. Et donc, à elle, je vais produire son album. Et c'est une super chanteuse. Elle a 23 ans. Elle chante
vraiment. Tu peux peut-être dire son prénom si des gens écoutent.
Kenya. C'est comme, elle a un nom de star. C'est Kenya de Gary, comme le Kenya.
Voilà. Moi, ils pourront.
Donc, voilà. Bien que. Bien que voilà, on verra. Elle va avoir bientôt tous ses comptes en même temps. Mais on va doucement parce que. On va doucement, c'est pas la peine de mettre le char avant.
Comment on dit, avant les vaches.
Voilà. Donc je viens de, au niveau des origines, voilà, c'est des origines moi très lointaines, égyptiennes, russes, écossaises, protestantes, gascon, basques, vénitiennes, espagnoles. Donc tu vois, c'est beaucoup. Et la famille, moi je suis né à 300 mètres de l'océan, dans un petit village qui s'appelle Mimiz en plage, sur la côte basque, entre Bordeaux et Biarritz. C'est la patrie des surfeurs, d'où ce look de surfeur improbable. Les gens sont en podcast, ne le voient pas, mais j'ai les cheveux longs, même à mon âge, entre guillemets, puisque j'ai 6000 ans, comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc voilà, j'ai une chevelure de surfeur, je suis un surfeur. Et d'ailleurs, j'utilise beaucoup la philosophie du surf. En tout cas, j'utilise pas mal de métaphores par rapport au surf quand je fais des conférences. Et donc, voilà, je viens de cet endroit-là. Et donc, il y a plusieurs lieux qui sont chers à mon cœur, comme justement la côte basque avec l'océan. Il y a aussi évidemment Paris parce que j'adore Paris. Je suis un vrai Parisien. Quand on dit les vrais Parisiens, c'est ceux qui aiment Paris. Et donc, voilà, ça fait 40 ans que je suis à Paris et j'aime Paris. J'aime l'énergie de Paris. J'adore. Et voilà. Et aussi, j'ai pas mal d'acquaintances évidemment avec la Martinique. Puisque la maman de Kenya est martiniquaise. Et donc, voilà, donc j'ai beaucoup de liens là-bas. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble déjà de pour situer un petit peu d'où je viens géographiquement. Et sinon, eh bien, mon parcours, je suppose que tu vas me poser la question, mais j'anticipe.
Vas-y, je t'en prie.
Oui, donc voilà, moi, j'ai un parcours d'abord de un petit peu de littéraire, parce que j'étais pas du tout, ou plutôt j'étais bloqué au niveau des maths, bloqué. Tu vois, alors c'est bizarre parce que personne ne peut jamais m'entuber sur un contrat de ce que je fais, entre guillemets, je connais parfaitement les chiffres, tout ce qui m'a, mais autrement, en mathématiques, j'étais très très nul, donc j'étais vraiment, mais c'était une maladie, ça me faisait un brouillard total dès que tu me disais de calculer 14 plus 2 moins 7, c'était, ça y est, ça me faisait rougir, je n'arrivais pas. Et donc voilà, et pourquoi je dis ça? Parce que ça va développer quelque part. Le fait de se, pas réfugier, mais en tout cas, aller plutôt dynamiquement dans la littérature, la philosophie. Donc, j'ai fait des études de littérature, de philo. J'ai commencé à être en licence de philo. Et ensuite, eh bien, le grain de sable est arrivé, entre guillemets. Non pas le mauvais grain de sable, mais mon oncle était un débatteur d'Henri Salvador, qui est un chanteur en France. Et Henri Salvador qui est décédé, mais... qui était antillais d'ailleurs, et donc Henri Salvador, et donc il m'a appris la batterie. Donc à un moment donné, j'ai décidé, en accord avec mes parents, de quitter l'université, et je croyais que ça allait durer. J'ai dit, je vais prendre une année sabbatique, et cette année sabbatique a duré 3 ans, durant lesquels j'ai écrit un livre, et en même temps, j'ai joué de la batterie avec les premiers groupes avec qui j'ai été. Alors, ça a une importance, pourquoi ? Parce que, par rapport au métier que je vais faire après, c'est-à-dire que l'importance, c'est que je vais me coltiner un peu la science des mots, de par le fait que j'ai écrit un bouquin, et la science de la rythmique et de la mélodie en même temps, puisque à la fois je jouais de la batterie, donc la rythmique, et à la fois, comme on avait des groupes, on avait trois groupes différents, mais un des groupes qui était avec mes frangins n'avait pas de chanteur, donc j'ai appris à jouer comme Phil Collins, à chanter en même temps que jouer de la batterie.
Et bien que Collins ne chante.
Comment ?
C'était quoi ce livre ?
Ce livre, alors, qui n'est jamais sorti, dans le sens, heureusement qu'il n'est pas sorti, parce que le contrat qu'on me proposait, bizarrement, tu vois, c'était déjà bon au niveau des contrats, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on m'a proposé, le contrat qu'on me proposait par la maison d'édition qui s'appelait Le Seuil à l'époque. En fait, j'avais fait un bouquin donc, de 360 pages. Je te le raconterai après le sujet. Mais ils me disaient que c'était très intéressant pour eux, même s'il y avait des choses à refaire. Et j'avais donc 22 ans à l'époque quand même, ou 22, 23, je ne sais plus.
Ouais, c'est jeune pour écrire un livre quand même, pour se dire
« Bah oui, j'ai commencé, j'ai écrit vraiment. Et puis en plus, c'est comme ça que j'ai affiné l'art des mots quelque part. Mm-hmm. Et en fait, il m'enfermait dans un contrat en disant c'est un contrat qui courait sur 5 ans au moins pour faire d'autres bouquins. Et j'avais fait un bouquin, ça va. En plus, j'étais batteur. C'était l'époque où tu vois, les filles, tu vois, c'était funk. Bon, chez moi, c'était du funk. Donc, c'était rock'n'roll. Tu vois, tu restes pas enfermé. Ça va, c'était bon. J'avais donné l'enfermement, c'était bon, quoi. Et donc, j'ai refusé. Et j'ai cru qu'on allait me donner d'autres contrats. Et heureusement, on ne m'a pas donné d'autres contrats là-dessus. Donc, il n'est jamais sorti. Et heureusement, parce que je pense que j'aurais peut-être continué là-dedans et je serais un écrivain derrière ces bouquins. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'aide vraiment pas.
Tu n'écris pas des fois quand même des livres juste pour toi, ou des lettres, ou des textes?
Non, c'est pas ça. Je lis beaucoup maintenant. Je ne lis plus du tout de romans depuis des années.
Ouais.
Non, je ne lis que des bouquins de développement personnel ou de philosophie ou de spiritualité.
Okay.
Mais non, c'est comme si j'avais pas le temps. Voilà, c'est un petit peu en résumé. Pourquoi je parle de ça ? Donc,
t'as écrit ce livre, et après tu disais que toi tu voulais être bassiste quand même,
batteur. Et donc voilà, et donc alors d'abord, pour répondre à la question, qu'est-ce que c'était ce bouquin ? C'était un essai philosophique qui était à la fois poétique et philosophique. Je te dis les deux titres qu'il y a eu. Le premier titre, c'était Le dit du maître de voyage. Donc, c'était déjà quelque chose. Et le deuxième titre qui a été gardé pour le truc, ça s'appelait Abkhan, A-B-Khan, K-H-A-N, l'étoile. Abkhan, l'étoile, j'avais renommé l'étoile du berger. Et c'était l'histoire, en fait, avant la Palestine, en Canaan, d'un personnage qui s'appelait le maître du voyage, et qui, en fait, arrive au moment où les 12 tribus d'Israël font une sorte de... Il y a un prophète qui s'appelle Josué et qui rassemble les 12 tribus d'Israël en disant « Voilà, maintenant, on arrête d'avoir un dieu de l'eau, un dieu de la pierre, un dieu du ciel, un dieu des rivières. Maintenant, il n'y aura qu'un seul. » C'est une sorte de début du monothéisme. Et donc, on va être sur la religion d'Akhenaton, enfin des Égyptiens qui sont, tu vois, dans Ra, un seul dieu entre guillemets, et enfin en tout cas d'un des pharaons. Et ce personnage dit, il est là, en fait on le prend au moment où il est au-dessus de la montagne en train de voir ce rassemblement de tribus, et il dit, je sais pas si entre guillemets Dieu existe ou Dieu n'existe pas, mais c'est certainement pas quelqu'un qui va me l'imposer. Donc en fait il s'exile et il part dans le désert. Et voilà, il part dans le désert, et dans le désert, il va rencontrer une nuit, il voit un grand feu au loin, il arrive vers le feu, il fait attention, et en fait, c'est pas un feu, c'est philosophique, hein, c'est 11 feux différents, et c'est en fait 11 dissidents de chacune des tribus qui ont exactement la même manière de penser que lui. Et voilà, c'est l'histoire de ces 12, pas salopards, mais 12 dissidents qui partent en exil, et qui sur leur chemin d'exil dans le désert et ensuite sur la mer, vont aborder des thèmes philosophiques, la vieillesse, la religion, la spiritualité, etc., etc. Et voilà, donc c'était un gros truc quand même. C'était un gros truc.
Ouais, quand c'est
même.
Quand même pas mal, hein. C'est un bon projet.
Ouais, c'était un gros truc, et c'était pas mal. Je peux même te citer, puisqu'on a le temps, je peux même te citer la première phrase qui est du style, enfin, c'est une énumération de lieux, pas biblique, puisque, enfin, de lieux de cette époque, et c'était le maître de voyage, deux points. Je vais et viens d'Ezion-Gaber à Sion-la-Colline, des pays de la mer vers Assouna, Sialk, Mersin et Jéricho, un empire de tribus né de la course des aventuriers.
Wow.
Bon, bon. Et ah ça partait comme ça. Ouais, c'était un peu épique, hein. C'était,
mais c'est incroyable, c'était... comme des 22 ans, 23
ouais,
ans.
Ouais, ouais. Bah, je suis né un peu avec ça. Il y a des trucs que je sais pas faire, il y a des trucs que je sais faire. Donc, en fait, voilà, je me reçois. Et c'est intéressant de dire ça parce que quelque part, ça va, cette science des mots, là, encore une fois, je dis science et je le dis sans prétention, cette approche des mots va m'être extrêmement utile ensuite. Donc, en fait, je deviens, je réponds non à cette histoire de contrat. Et puis, je deviens musicien professionnel et donc je vais à Paris. Je te la fais courte, hein, parce que, et donc, en étant à Paris, eh bien, je galère d'abord, hein, personne ne m'attend à Paris, en fait, hein. Et ouais, donc, je galère.
Je te coupais, mais tu l'as fait courte, mais c'est quand même intéressant. Comment tu te dis, je monte à Paris en voulant être musicien, tu sais, c'est quand même assez atypique, original.
Bah, pas tant que ça, parce que quand tu connais, je sais pas comment ça se passe, toi, t'es de Montréal ou t'es
non, je suis Toulon, ouais. Dans le sud de la France.
Bah, tu vois, quand t'es musicien à Toulon, où est-ce que t'as pas de musicien à Toulon? C'est à Paris que
ouais,
ça se passe.
Mais tu te dis, c'est quand même risqué d'être musicien, en fait.
Ah, bah, bien sûr que c'est risqué, mais toute la vie est un risque, hein. À un moment donné, t'es là, puis tu te dis, puis en plus, nous, on avait un groupe qui tournait pas mal. On était sur le point de signer avec un grand truc.
Ah, quand même, ok, c'était déjà élaboré.
Ça tournait, hein. Attention, c'était ouais. Mais quand je suis arrivé à Paris, le problème, c'est que, alors, on n'a pas signé, donc un des groupes le plus gros s'est splitté. Et puis, moi, je suis resté et je croyais qu'on allait me prendre comme batteur pour plein de trucs. On m'a pris après comme batteur, mais au départ, c'était l'époque des premières boîtes à rythme et il n'y avait plus besoin de batteur, plus trop besoin de batteur. Et donc, je me suis retrouvé un peu dans une galère pendant un an ou deux, je ne me rappelle plus. Et ensuite, eh ben, les choses sont tellement bien arrangées parce que j'ai vraiment énormément de chance. Je remercie David là-dessus. Les rencontres ont fait que les gens sont venus me voir, m'ont demandé d'être batteur dans beaucoup d'émissions de télé. J'ai fait énormément d'émissions de télé. J'ai tourné avec beaucoup de gens. C'était l'époque où il y avait une émission de télé chaque soir, hein. C'est simple. Il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles quand tu étais petit ou pas, mais enfin, il y avait Jean-Pierre Foucault, il y avait donc Patrick Sébastien, il y avait De Chavannes, Drucker, Jacques Martin. Donc, toute la semaine, on avait des contrats. Et donc, ils avaient besoin de batteurs, soit pour être sur scène, entre guillemets, avec en direct, mais souvent en playback, pour avoir un groupe derrière, tu vois. Donc, j'ai tourné avec plein de monde. Et voilà. Et donc, j'ai fait des rencontres par rapport à ça. Et puis voilà. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu deux coups de chance incroyables. Je te la fais très courte parce que je te raconte tous les hasards incroyables qu'il y a eu là-dessus. Mais en tout cas, je me suis retrouvé à un moment donné à être engagé dans une comédie musicale, la première comédie musicale qui a eu une des premières en France qui a très bien marché, qui s'appelait La Petite Boutique des Horreurs. Aux États-Unis, c'est Little Shop of Horrors. C'était un des premiers rôles de Jack Nicholson, quand même. Et donc, un des rôles était joué par Jack Nicholson. Et donc, moi, je passe le casting. Et incroyable, par des hasards dingues, j'ai le casting parce que les gens savent que je sais chanter et je sais un peu danser et je sais surtout jouer rythmiquement. Je suis bon dans la rythmique. Et c'est exactement le rôle. Je ne t'explique pas trop le rôle que c'est, mais enfin, c'est vraiment ce rôle-là. Et donc voilà. Et donc je joue dans cette comédie musicale là. Et puis je continue la musique en même temps. Et encore une fois, je la ferai très courte parce que dans plein d'interviews, tu peux trouver ces anecdotes. Mais je répète ici la chose principale. En jouant dans un ce qui est l'anecdote la plus marrante, c'est que j'avais les cheveux aussi longs que ça. Enfin, les gens ne le voient pas, mais j'ai les cheveux très longs. Et à l'époque, j'avais exactement les cheveux comme ça, mais noirs. Et un matin, comme j'avais dans mon rôle des perruques, vraiment, j'avais que des perruques, et on s'apercevait qu'à la fin, quand j'enlevais les perruques, que c'était moi l'instigateur de tout ce qui se passait. Donc, je pouvais porter ce que je voulais sous mes perruques. Et j'avais très, 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 très chaud. Et un matin, je sais pas pourquoi, j'ai un feeling, je vais chez le coiffeur. Alors, je ne vais jamais chez le coiffeur, pratiquement. Et je me les coupe moi-même, tu vois, sous la douche, comme ça. Et donc, et je dis au mec, coupez-moi les cheveux, j'en peux plus. Je suis en train de dire, non, je vais pas vous raser, vous avez eu la tête. Je dis, si, rasez-moi. Et je me retrouve avec beaucoup plus court que toi, tu vois. Enfin, vraiment Razman, quoi.
Pas grand chose.
Un peu un G.I. Joe, tu vois, un petit peu ça. Mais vraiment G.I. Joe, j'avais la tronche du G.I. Joe. Et le soir même, écoute bien, on est vraiment en train de faire la comédie musicale. Et après la représentation, ça frappe à ma loge. J'ouvre la porte et une dame qui vient, qui me dit bonjour, je m'appelle Nathalie Chéron. Je dis, ouais, vous ne connaissez pas. Enfin, je ne dis pas connais pas, je dis bonjour, bonjour madame. Et il me dit, écoutez, vous avez déjà fait du cinéma? Et je fais, pas exactement, j'ai tourné dans un film pour FR3. Bon, écoutez, ce n'est pas grave, vous avez exactement la tête qu'il me faut. Ce matin, le matin même, je vais me couper les cheveux quand même. Hein.
Le petit truc, quoi.
Non, mais le truc de dingue. Et donc, il me donne, il me dit, tel endroit, rue Yves Toudic, à telle heure. Donc, demain, est-ce que vous pouvez venir? Je dis oui, bien sûr, dans la matinée. OK, on vous attend. Et donc, j'arrive là-bas, je rencontre un caméraman japonais. Bonjour, Tomo Arigato. Je vois un mec assez fort avec une tête avec des cheveux en pétard. Il me dit, tu parles anglais? Je dis, not very fluent, but I try, hein, I try. You know, I am a Frenchman. Hein. Et il me dit, OK, vas-y. C'est tout, ça dure une minute, hein, 2 minutes, le temps de dire bonjour, au revoir. Et puis, j'ai pas de nouvelles. Et 2 mois après, on avait un gros succès avec la comédie musicale. Et donc, on change de théâtre. On passe du théâtre de la Porte des Jazzés à la Porte Saint-Martin. Donc, il y a changement de théâtre. C'est 2 mois de changement pour les décors, etc. Et une semaine après l'arrêt, coup de fil, bonjour, vous vous rappelez, vous avez passé un casting? Oui, je me rappelle. Est-ce que vous avez votre passeport? Oui, j'ai mon passeport. Est-ce que vous êtes libre dans une semaine? Oui, pour 4-5 jours? Oui. Eh ben voilà, on vous envoie des billets, vous devez arriver, vous nous retrouvez à Roissy dimanche soir à 18h à Roissy devant le panneau Gaumont et vous partez pour faire des scènes, des petites scènes pas très longues mais avec un monsieur qui s'appelle Luc Besson et vous allez faire un film qui s'appelle Le Grand Bleu. Donc, me revoilà sous le panneau Gaumont le dimanche soir, tout seul parce que j'arrive une demi-heure en avance et là, j'attends et je vois un grand mec arriver et qui me voit et qui fait « Salut, comment tu t'appelles ?»
Bonjour, je m'appelle Pierre-Alain de Garrigue.
Moi, c'est Jean Reno, ça va? Voilà. Et c'était donc Jean Reno, le Grand Bleu. Et donc, Luc arrive, Luc Besson, puisque le gars qui m'avait filmé avec les cheveux sur la tête, c'était donc Luc Besson. Et donc, toute l'équipe, relativement réduite, parce qu'on partait au large de l'Écosse sur des plateformes de forage. Et donc, me voilà embarqué pour une petite scène du Grand Bleu, qui est dans la version longue. Voilà, qui n'est pas très importante, mais en tout cas qui devait être faite. Donc, c'est moi qui joue le rôle du chef de la plateforme quand, à un moment donné, Jean-Marc Barre et Jean Reno partent parce que Jean-Marc Barre s'est fait larguer par Rosanna Arquette. Tu te rappelles du Grand Bleu ou pas du tout?
Si, je me rappelle. J'aime bien le cinéma, je me rappelle un peu.
Voilà, donc voilà, ils arrivent sur une plateforme de forage et c'est cette scène-là où ils boivent de l'alcool dans le bathyscaphe et ils parlent avec la voix, avec l'hélium.
Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est marrant.
Puis il rigole. Et moi, je suis le chef de la plateforme au-dessus qui dit qu'est-ce qui se passe? C'est le bordel. Et pourquoi je parle de ça? Parce que on tourne. Et puis évidemment, c'est ce que je dis tout le temps. Quand tu es dans un endroit confiné comme ça, soit tu te fous sur la gueule, soit tu deviens pote. Et je suis devenu très pote avec, avec tout le monde, mais et avec Luc aussi. Et Luc m'a dit, en rentrant, qu'il était venu me voir je ne savais pas qu'il était dans la salle, il était venu me voir pendant la comédie musicale. Et puis, il me dit, écoute, je te trouve super sympa, je pense que tu as des petits trucs, est-ce que tu voudrais venir bosser avec moi quand tu auras terminé la petite boutique des horreurs? J'ai dit, ok, banco. Mais je lui dis, ouais, mais je sais pas ce que je vais faire. Il me dit, je t'apprendrai des trucs et tout. Et donc, je lui dis, oui, mais moi, je continue la musique. Il me dit, aucun problème, je te laisse la liberté. Quand tu auras des trucs à faire, tu y vas. Et voilà, et donc je suis rentré et j'ai intégré la boîte de prod avec Luc, qui s'appelait à l'époque, il y a eu plein de noms différents, les films du Dauphin, les films du Loup, Lilou Productions, enfin bon, voilà. Donc, et donc on a pendant des années, j'ai travaillé avec lui et en même temps, il m'a laissé la liberté de faire de la musique. Et c'est là où il va y avoir le deuxième moment incroyable de chance. C'est que, bon, d'abord, on est avec Luc, on a fait, ben, évidemment, Le Grand Bleu est sorti. Ensuite, on a fait Nikita. J'ai tourné dans Nikita aussi. Nikita, on a fait Atlantis. On a fait le début. On a travaillé pendant deux ans et demi sur Le Cinquième Élément, qui était au départ deux films qui devaient s'enchaîner. À un moment donné, ça s'est tout à fait arrêté. Luc a dit, on arrête tout. Pendant qu'on était en train de travailler le Cinquième Élément, on arrête tout, on fait un autre film parce que j'ai passé un deal avec les Américains. Si on ne fait pas avec les Américains et la Gaumont en même temps, on ne pourra pas faire le Cinquième Élément. Et donc, ça a été Léon, le film qui a été fait donc, avec Nathalie Portman et Jean Reno. Et ensuite, on a travaillé sur le Cinquième Élément et ensuite Arthur et les Minimoys, etc. Voilà, je t'en passe, c'est des meilleurs. Je suis toujours copain avec Luc, on s'est vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Qui est un mec que j'aime beaucoup. Il a beaucoup de problèmes partout, mais bon, voilà. Et donc, voilà. Et pourquoi je te parle de ça et je ne te laisse pas beaucoup parler, mais c'est tant pis pour toi. C'est moi l'invité. Tant pis pour toi, c'est moi l'invité. Et donc, je suis un moulin à parole quand j'y pense. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe un truc incroyable, c'est qu'un jour... Donc je continue à faire la musique en même temps et j'ai toujours des sessions et je suis en session particulière pour une chanteuse au Palais des Congrès. Palais des Congrès, pour ceux qui connaissent pas, c'est un grand un des plus gros studios de Paris. C'est là où Johnny Hallyday a enregistré beaucoup de ses albums. Et il y avait aussi des séances de pub qui se faisaient là. Mais là, nous, c'était une séance. Moi, je faisais une séance de chœur puisque j'étais habitué à chanter et une séance de percussion en même temps. Ou plutôt, petite percussion, ça devait être du tambourin, enfin un truc un peu naze. Mais en tout cas, au moment de la fin de la session, juste un peu avant la fin de la session, il n'y a plus le rouge, c'est-à-dire qu'on n'est plus en enregistrement, la porte s'ouvre, un homme un peu âgé arrive et je dis, tiens, c'est marrant, il me dit quelque chose ce gars-là. Et il va voir l'ingénieur du son qu'il avait l'air de connaître, il discute avec l'ingé son et l'ingé son se retourne en disant, ben voilà, messieurs et mesdames, puisqu'il y a une dame, je vous présente Jean Becker qui est un réalisateur, enfin, on le connaît, oui, il avait fait Les Enfants du Marais, L'Été Meurtrier quand même, c'était pas mal du tout avec Adjani et tout ça. Donc, et il est en train de faire une pub à côté. Et la problématique, c'est qu'il explique que, eh ben, il croyait que c'était une séance de pub ici parce que, à côté, le comédien qu'ils ont booké doit faire une phrase en 8 secondes et il y arrive, mais il n'y arrive qu'en 11 secondes. Et dans la pub, voilà. Donc, il a 2 secondes et demie, pratiquement 2 secondes et demie, 3 secondes dans la vue et il n'y arrive pas. Et donc, Jean est venu ici et il s'exprime, je suis venu ici pour voir si vous étiez une séance de pub et que par hasard, il y a un comédien. Et tout le monde se retourne vers moi en disant, mais Pierrot, il fait bien le compte devant les micros, il a l'habitude de gérer la distance, etc. Mais moi, j'ai jamais fait ça. Jamais. Jamais. Et donc, il me dit, bah, viens avec moi. Tu t'appelles comment? Pierre Alain, on est dans le couloir. Il me dit, t'as déjà fait de la pub? Je dis, monsieur Becker, je sais même pas de quoi vous me parlez, quoi. Et donc, j'arrive, la porte s'ouvre. Pour la première fois de ma vie, c'est la première fois, mais j'en ai vu beaucoup après, des publicitaires angoissés, comme ça. Et donc, personne ne fait spécialement attention à moi. Il dit, voilà, quelqu'un va essayer. Donc, il n'y croit pas. On me met devant le pupitre. On me montre le papier avec la phrase. Et là, je regarde. Et 25 ans en avance, je sors ce juron qui n'existe pas encore. Mais dans ma tête, il devait peut-être exister. Oh là là, putain de ta race. En fait, il s'avère que c'était pour la publicité, tu n'étais pas encore né, ou tu l'étais peut-être, c'était la publicité pour Justin Bridoux, la juste sèche de Justin Bridoux. Et la phrase, c'était un peu ce qu'a fait Soch des années après. La phrase à dire en 8 secondes, c'était celle-là, exactement. La juste sèche de Justin Bridoux. Une saucisse sèche, ça s'enchaîner, doit sécher sans s'assécher. Elle est sèche, juste sèche, la juste sèche de Justin qui? La juste sèche de Justin qui? La juste sèche de Justin Bridoux. Voilà, c'était exactement ça qu'il fallait faire. Et donc, je commence et je n'y arrive pas. Bien sûr que j'arrive pas. C'est pas facile. Je le recommence, je n'y arrive pas. Je le fais une troisième fois, je n'arrive pas. Je vois les autres qui font comme ça. Et je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, ça c'est mystique. Je te jure que c'est mystique, je le raconte tout le temps. Moi j'ai un côté un peu mystique, mais pas un mystique magique, quoique. Et il se passe que c'est comme si on me parlait dans ma tête en disant « c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Je suis comme ça, hein. Je suis comme ça, je sais pas quoi faire. Et tout d'un coup, je vois ce qu'il faut faire. Et en fait, mon cerveau me montre que il faut pas que je lise tout. Il faut que je m'appuie simplement sur les consonnes. Le J, le L de la, Le J de jus, le T de ste. Tu vois? Mm-hmm. La juste sèche de C, le CH, de, DE, tu vois?
Ouais.
Comme si c'était des croches, ou des, tu vois, ou des doubles croches.
C'est la tac, musique tac, qui t'a aidé, tac, là. C'est
c'était la musique
musicale. Qui t'a aidé, le rythme.
Ouais. Mon cerveau me disait, ne t'occupe que de ça. D'accord? Et là, je fais. Et là, Becker, il m'a dit après. Il m'a dit, je t'ai vu transformer. Il m'a dit, t'étais comme ça. Et t'as fait, attendez, j'ai peut-être une idée. T'as fait vraiment comme ça. C'était comme quoi les trucs, t'es fait pour ça ou pas. Et donc, je dis, attendez, j'essaye un truc. Et je pars et ça rentre à ça. Et je vois les mecs qui font comme ça. Mais ça rentre à ça. Hein. C'est-à-dire, vous ne voyez pas en podcast. Mais ah,
ça rentre pas grand-chose.
Ça rentre à. Honnêtement, ça rentre à une seconde. Ça rentre à une seconde. Je dis, attendez. OK, j'ai chopé. Et là, il balance la juste sèche de Justin Bridoux, une saucisse sèche, sachant sécher, doit sécher sans s'assécher. Elle est sèche, juste sèche, la juste sèche de Justin qui, la juste sèche de Justin qui, de Justin Bridoux. Je fais exactement ça. Et là, ça rentre pile poil. Tous les mecs sont comme ça, je le dis tout à fait sans prétention, encore une fois. Et là, Becker, au lieu de me dire, waouh, merci, etc., lui, il me regarde et me fait, toi, tu viens tout de suite avec moi. Ça veut dire, Je te découvre, quoi. Et donc, là, ils sont OK. Tout le monde prend. Ils font l'essai sur trois films. Hein. Ils font l'essai sur les trois films. Ils disent, c'est exactement ce qu'on voulait. Les mecs de l'agence disent, mais vous n'avez jamais fait ça? Je dis, écoutez, non. Ben, je dis, le fait que je sois musicien, c'est peut-être important. Puis que je chante, je sais placer ma voix. OK. Et donc, le lendemain, Becker me dit, viens avec moi. Et je dis, non, là, il faut que je range mes affaires. En plus, entre-temps, j'avais appelé Luc parce que je devais rentrer manger avec lui. Luc Besson, connaissant Becker, il en parle. Il me dit, oui, fais-lui confiance. Il se parle, quoi. Et donc, je rentre manger avec Luc. Luc me dit, tiens, tu devrais réfléchir à ça parce que c'est incroyable, quoi. Je dis, ouais, bah, d'accord, mais bon. Et le lendemain, je vais avec Becker signer des contrats. Je veux vraiment signer des contrats parce qu'il me dit, viens signer des contrats. Et donc, je regarde les contrats. Je vois des chiffres et je fais, c'est mon numéro de sécurité sociale, ça? Non, ça, c'est ton cachet, mon gars. Et ça devait correspondre à l'époque à 5000 euros quand même. Tu vois? Ah oui, bah, trois films de pub. J'avais jamais gagné autant d'argent en 30 secondes, quoi. Et donc, pendant, écoute-moi bien, pendant, on est en train de discuter, il reçoit un coup de fil, il prend le téléphone, il se retourne, il fait, qu'est-ce que tu fais tout de suite là? Monsieur Becker, je ne sais pas, j'en sais rien. Il dit, bah, tu viens avec moi, tu es en moto, tu me rejoins à tel endroit, telle heure, dans une heure et quart. À l'époque, il n'y avait pas de GPS, donc il faut que j'aille à Boulogne, que je trouve l'agence qui s'appelle Young & Rubicam. Je débarque, il était là, il m'attend, il me prend sous son aile, on va dans un banc de montage, devant un banc de montage avec un petit micro pour faire des maquettes. Il me dit, regarde, est-ce que tu peux chanter ça? J'écoute, je fais, ah ouais, je peux chanter ça, monsieur Becker, ça c'est sûr. Et ben, tu chantes ça, puis ensuite, je devais demander quelque chose. Donc, le truc à chanter, c'était, bon, encore, tu étais trop petit, toi, à l'époque, c'était simplement trois notes qui faisaient Danone. Simplement ça. Et là, il me dit, voilà, ben, tu as fait ça, c'est de la maquette. Maintenant, l'idée, c'est que, qu'est-ce que tu ferais comme voix pour, pendant 30 secondes, voilà le texte, pour un yaourt qui doit se définir comme, s'il y avait un texte, hein, comme le meilleur yaourt du monde, le plus sensuel. Je dis, quelle voix je prends pour ça, quoi? Et pareil, ça me vient direct, moi, ça m'est toujours venu direct, hein. Ça me traverse, moi. Je fais, je sais pas, et il suffit que je dise, je me sais pas, bah, tiens, j'entends ce qu'il faut faire. Et je fais, moi, le nouveau yaourt Danone, je suis tellement, mais tellement sensuel. Vous allez goûter à mon velouté, etc., etc. Danone. Et je deviens la voix Danone. Et de ce jour-là, Becker m'emmène, Besson appelle des potes, et de ce jour-là, je bosse tout de suite. Mais de tout de suite, hein. Tout de suite. Et je bosse. Et ça fait 40 ans que je bosse. Voilà.
Waouh.
C'est fou, hein.
En fait, c'est quand j'ai fait plusieurs rencontres là pour mon podcast, et à chaque fois j'ai l'impression que c'est des chances, des trucs de deux secondes, des moments. Mais il y a le côté le travail, forcément, il faut la provoquer, cette chance.
C'est pas le travail, c'est une préparation intérieure. Il faut que tu sois prêt.
C'est-à-dire
que là, quand on me pose la question comme tu viens de me la poser, qui est une question, c'est pas une question, mais je réponds comme si c'était une question.
Ouais.
C'est-à-dire que les gens me disent waouh, la chance. Je dis non, c'est pas la chance. C'est un travail intérieur en amont qui fait que ça aurait pas été ce jour-là, ça aurait certainement été un autre jour. C'est comme tu rencontres ta nana, on se dit oh putain, le hasard, oui, mais en fait, tu l'aurais peut-être rencontré une semaine après, et une autre fois, jusqu'à ce que ça se fasse. Parce que intérieurement, c'est quelle est ma vibration, et je vais correspondre à la vibration. Mon jardin intérieur va correspondre à un jardin extérieur. Donc en fait, et j'ai toujours fait ça.
Mais
donc,
comment tu travailles ça? Comment, en moi, comment je peux travailler cette chance, enfin, comment travailler ce travail intérieur dont tu parles? Comment on fait pour le
tu veux déjà qu'on parle de ça là maintenant? Si tu veux, on en parle maintenant. Bah alors là, on part sur la manière de comment tu penses, la manière dont tu parles, la manière dont tu t'inscris dans chaque moment, dans chaque instant, dans chaque seconde. Donc, ça veut dire, moi, les gens me demandent, mais comment tu fais? Alors, d'abord, la première chose, c'est le focus que tu as. C'est-à-dire que Kobe Bryant, Michael Jordan, Roger Federer, ils se lèvent à 6h du matin et ils font 8h d'entraînement, coup droit pour Federer, pour qu'ensuite, à l'instinct, ils puissent répondre à l'instinct. Eh bien, moi, j'essaie d'optimiser énormément de choses dans ma vie et de mettre de côté les choses qui me font pas perdre du temps, parce que c'est pas une bonne expression, perdre du temps. Mais j'essaie d'optimiser et d'aller dans le sens de qu'est-ce que c'est mon jardin intérieur? Quelle est ma dynamique de vie? Ma dynamique de vie, c'est d'être heureux d'abord à mon niveau pour pouvoir partager ma joie et partager ma force et mon énergie. C'est un partage. Donc, comment tu fais ça? Le problème, tu ne le fais qu'en faisant attention perpétuellement à la façon dont tu parles, les mots que tu emploies, les pensées que tu as, les émotions que tu as. Et tu t'aperçois que quand tu es en focus, c'est-à-dire que tu as une sorte de badge ou de Pierre Alain au-dessus de toi, ou un Marvin, ton petit Marvin qui est au-dessus de toi, eh ben c'est pour ça que je dis que c'est l'histoire de l'athlète de très haut niveau. Parce que qu'est-ce qu'on fait des athlètes de très haut niveau? Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'intégrer une pensée toujours habituel pour que l'habitude devienne un instinct. Un exemple que je donne tout le temps. Un exemple. Je suis en train de prendre un café sur la place des Vosges où j'habite et il y a des gens qui passent, il pleut à torrent dehors. Je suis en train de prendre un café, les gens viennent me voir, ça va, passe, oui, ça va. Tu as vu quel temps pourri? Je dis, je ne comprends pas ce que tu dis. Non, mais tu as vu quel temps pourri? Je ne comprends pas ce que tu dis. Donc, je les énerve un peu, puis je change, je ne vais pas plus loin que ça. Puis je dis, au fait, qu'est-ce que vous faites à midi, les enfants? Ah, ben, on va au restaurant. Ah, c'est intéressant, qu'est-ce que tu vas prendre au restaurant? Puisqu'il est 11h15 à peu près. Ah, ben, je vais prendre tomate mozzarella, un petit peu de riz, un bon verre de vin, par exemple. Je dis, répondez-moi très, très, très vite, là, très, très vite. La tomate mozzarella, elle pousse comment? Avec de l'eau de pluie, oui, bien sûr, oui. Le verre de vin, comment tu l'as réussi? Ah, c'est de l'eau de pluie, bien sûr. Et le riz, ah, de l'eau de pluie, d'accord. Donc, excusez-moi, mais si vous voulez un endroit qui a pas de pluie, vous allez dans le désert. Il y a rien. Alors, au lieu de venir me dire et me casser les couilles, c'est exactement ce que je dis, de me casser les bobons en disant que c'est une journée pourrie, dites, c'est un beau jour de pluie. Donc, ça veut dire que j'utilise le fait de dire qu'est-ce que, par rapport à ce qui se passe autour de moi, c'est donc ma perspective qui doit changer, mon œil doit changer. Cette pluie, cette eau, c'est la même. Les seaux d'eau qui tombent sur la rue, soit tu les vois en disant « ça me fait chier », soit tu dis « merci, ça lave les trucs, ça permet de… » etc., etc. Enfin, tu je ne veux pas te faire le ce qu'est la pluie. Donc, c'est donc… une optimisation du regard que tu as sur tes mots, tes pensées, etc. Ça veut dire que tu prends donc une manière de penser qui devient un instinct, une habitude avant de devenir un instinct, une habitude. Tout ce qu'on a fait, c'est avec des habitudes. Essayez de l'utiliser pour la chance. Je parle même pas de la chance, mais pour une manière d'être.
C'est vraiment une façon de penser, en fait. C'est tourner son esprit.
C'est une totale façon de penser.
Tu sais, il y a plein de gens qui, même moi d'ailleurs, tu sais, quand je suis sorti mes études, je t'en parlais en off, je disais, tiens, mais je sais pas ce que je vais faire de ma vie, tu sais, t'as des boules au ventre, on te dit chercher un emploi, mais tu sais même pas quoi chercher, quoi noter, et tu dis, je vais jamais réussir dans le sens, je vais jamais trouver la paix avec ce monde. Et toi, tu dis que, en fait, si tu penses de façon plus positive, si t'essayes de voir tout le côté positif des choses, t'inquiète pas, en fait, nos stress. Tout arrivera quand ça arrivera.
Ça arrivera, et ça veut dire une chose, c'est que tout est expérience. Il n'y a pas d'échec, c'est une expérience. Moi, j'ai gagné de l'argent, je gagne beaucoup d'argent, vraiment. J'ai gagné de l'argent à 28 ans. T'as quel âge?
J'ai 25, 24.
25. Mois prochain. Donc tu t'es angoissé quand t'avais 22, on te dit trouve un boulot.
Ouais, c'est ça. Mais même des fois, là actuellement, j'ai un travail, tu te dis, bon, c'est pas ma passion.
Oui, mais justement, non, mais après, c'est là, la vie, alors c'est là où je reviens au surf.
Ouais.
La métaphore du surf. D'accord? J'ai deux métaphores pour toi là-dessus et pour ceux qui écoutent. La première, c'est le surf. C'est quoi le surf? Tu as une planche, que tu fasses du surf ou pas bien, on s'en fout. Et tu remontes le tube. C'est un effort. Tu remontes le courant. Tu es obligé. OK. Et là, tout d'un coup, tu es là dans une zone où tu vas attendre les vagues. Tu as un peu dépassé la barre et tu vas attendre les vagues. Donc, imagine que l'existence, la vie, c'est l'océan. D'accord? C'est l'océan. Donc, la plupart des gens qui attendent la vague, ceux qui sont les conseilleurs et pas les payeurs quelque part, eh ben c'est comme si tu te retournais en disant hey les gars, est-ce que la vague qui arrive est bien là? Non, dites-moi, est-ce qu'elle est bien celle-là? Tu vois, tu perds ton temps. Tu prends la vague et t'y vas. OK? Déjà, tu ça. Et puis, tu n'écoutes pas les autres qui font ouais, peut-être que je sais pas celle-là. Il me semble qu'elle est bien. Non, rien à foutre. Tu prends la vague. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu prends une vague de surf? La finalité, c'est d'avoir de la joie là-dedans. Mais d'avoir la joie dans une sorte d'effort. Quand tu montes sur la planche, c'est pas facile. Mmh. OK. Et surtout, les gens veulent dans leur vie être comme des statues. Tout va bien. S'ils ne me voient pas en podcast, mais je suis statufié. Ouais. Tout va bien. Alors que le surf, comme la vie, c'est l'harmonie du déséquilibre. À un moment donné, tu vas finir ta vague et tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est normal. Et tu vas recommencer. Donc, mais c'était joyeux. C'était une expérience. C'est la même chose.
Le plus dur, en fait, j'ai l'impression pour les gens et même pour moi, à un moment, moi, c'est le podcast, ma vague, j'ai l'impression. Ce que j'ai trouvé, c'est je vais tenter la vague, je me plante, je contacte des gens qui m'intéressent. Et franchement, toi, tu as été super cool de me répondre, mais il y en a qui ne me répondent jamais. Moi, j'ai trouvé le podcast. Tu vois, mais il y a des gens, quand j'ai discuté avec un proche ce week-end, et il me disait, mais la vague, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais pas c'est quoi ma vague. Je ne sais pas ce que j'aime. Toi, t'as fait pour toi, c'est la musique, j'ai l'impression, ta vague.
Le principal, il faut écouter ce que disait Einstein. Pas un gros con quand même, Einstein, on est d'accord.
Un peu connu pour son travail.
Un peu connu. Einstein, il disait un truc. Je cherche pas. Je pose une question et 90% du temps, j'attends. Je pose une question. Mais il faut poser la question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est pas pourquoi je suis angoissé parce que je trouve rien. Si toute la journée tu te lèves en disant c'est un putain de temps, je déteste la pluie, je peux t'assurer que tu seras jamais heureux. Pourquoi? Parce que si tu te dis dans un an, il y aura 105 jours de pluie au moins. OK? Donc 105 jours de pluie, tu mets à la poubelle. Je te dis même pas les trucs où tu t'engueules avec tes parents, où tu t'engueules à ton boulot, où tu t'engueules avec ta gonzesse ou ton mec si c'est l'inverse. OK? Donc, c'est quoi ta vie? Ça va être 35 jours au moment où tu vas partir à la Caraïbe ou même pas? Non. Alors que, à l'endroit où tu es, tu trouves ce qui est bien. Je prends des exemples tout à fait naturels, normaux. Par exemple, je te dis un truc. Si je te dis, Marvin, tu peux avoir toute la volonté du monde, volonté de travailler, volonté d'être n'importe quoi. Ta volonté va rien faire du tout. Rien. C'est l'intention qui va faire quelque chose. Volonté, intention. C'est ton intention, c'est-à-dire sur quoi tu vas te focaliser. C'est-à-dire que je te prends encore une métaphore, les fréquences, ça veut dire que tu es là, tu es comme un récepteur de radio ou tu es comme devant une radio. Si tu te mets sur le 107.7, c'est l'information du 107.7 qui arrive, on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que le 95.2 ou le 103.5, il n'existe pas. Il existe. Mais en ce moment, t'es focalisé là-dessus. Donc, sur quoi vous focalisez vos pensées? Est-ce que vous focalisez perpétuellement votre pensée sur le manque? Si vous focalisez sur « j'ai pas », c'est une résonance comme un piano. T'arrives, quand il y a deux pianos dans une pièce, tu fais un do, tu t'aperçois que le do ou n'importe quelle autre chose, le do réagit au do. C'est comme ça. Alors, pourquoi je parlais de ça? J'étais parti sur quoi? Je ne sais plus.
Alors, on était sur la... À la base, c'est la vague. Je te disais comment on fait pour trouver sa vague, pour savoir ce qu'on aime vraiment.
Oui, c'est ça. Il faut donc poser la question et regarder ce qui te fait plaisir et prendre des risques. Prendre des risques. Je reviens à ma deuxième métaphore dont je voulais parler tout à l'heure. J'appelle ça la métaphore de Christophe Colomb. C'est quoi la métaphore de Christophe Colomb? La métaphore de Christophe Colomb, c'est ça. Dans l'histoire, Marco Polo découvre la route des Indes avec les épices, ça vaut beaucoup d'argent, etc. Et les royautés, la royauté de Christophe Colomb, je ne sais plus si c'est la portugaise ou l'espagnole, je m'en fous, ça doit être l'espagnole, je pense, dit il faut qu'on découvre un autre, il faut qu'on découvre une autre route, parce qu'il faut qu'on découvre une autre route. Mais à l'époque, même si certains lettrés, certains scientifiques, entre guillemets, il n'y avait pas trop de scientifiques à l'époque, disent la Terre est ronde, ils pensaient, la plupart, populairement, c'était la Terre est plate. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on part de ce côté-là, au lieu de partir sur la route de Marco Polo, eh bien, il y a un grand trou au bout. Il y a un grand trou. Tu vois, la Terre est plate. Mmh. Sauf que Christophe Colomb, il part et il emmène 60 à peu près marins avec eux. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Argent, gloire, tout ce que tu veux. Ces marins, qu'est-ce qu'ils font? Ils intègrent le fait qu'ils vont peut-être mourir, mais ils partent quand même. Donc, ça veut dire que comme Christophe Colomb, quitter le rivage, quitter le bord, quitter la lumière, quitter les gens que vous aimez, proches, que vous voyez, partir sur l'océan. Encore une fois, on en revient au surf. Sur l'océan, qui est vraiment l'image de l'existence, tu ne peux pas contrôler l'océan. Personne ne peut contrôler l'océan. T'as que deux seules choses que tu peux contrôler dans ton bateau, c'est ta voile et ton gouvernail, ton cœur et ton esprit. Tu ne peux contrôler que ça, ce qui n'est que toi. Qui n'est que toi. Et il se peut, oui, il se peut qu'une énorme bourrasque arrive et que tu chavires et que tu meurs. C'est une des possibilités. D'accord? Mais si en partant du port, en osant partir, en osant aller sur un chemin que tu ne sais pas ce qui va arriver et que tu penses aussi que c'est tellement dangereux que tu n'y arriveras jamais, mais que tu pars quand même, eh ben, tu seras le seul parce que tu es parti à découvrir ton Amérique. C'est pas ceux qui sont restés. Eux, ils entendront les récits de ceux qui ont découvert l'Amérique. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Donc, c'est la même chose. Cette métaphore, pourquoi j'en parle? C'est la métaphore de dire, tu n'auras jamais de réponse sur ce qui va arriver. Par contre, tu vas t'obliger, et il faut s'obliger à poser la question, qu'est-ce que j'aime? Moi, Marvin Taillot, qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime faire de l'informatique? Est-ce que j'aime machin? Et c'est pas de dire, ah oui, on m'a dit de faire de l'informatique ou des jeux vidéo ou ouais. N'importe quoi, mais il y en a déjà plein. Ah bon? Alors c'est comme si moi je veux devenir boulanger et que je dis, mais il y a déjà des boulangers. Bah oui, mon gars, il y a déjà des boulangers. Heureusement qu'il y a déjà des boulangers. Mais alors ça veut dire quoi? Non, t'es pas obligé d'être Steve Jobs tous les quatre matins non plus. Tu vois? Et encore, tu peux trouver plein d'exemples avec Steve Jobs qui sont intéressants. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la première chose, c'est l'attitude intérieure. Qu'est-ce que je fais avec mon attitude? Comment je m'observe? Est-ce que je passe ma vie à me dire merde, qu'est-ce que je vais faire? Parce que si tu passes ta vie à te dire merde, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, encore une fois, autour de toi, ça va être tout le monde va faire merde. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de prendre du temps en n'importe quoi. C'est travailler avec soi. Donc, je reviens donc à l'observation. Et donc, l'observation, c'est vraiment l'observation. Et j'en reviens encore une fois, comme je suis parti, j'en reviens aux idées d'avoir un esprit comme les athlètes de très haut niveau. C'est-à-dire, il est où ton focus? Il est où ton focus? Ça t'est déjà arrivé, par exemple, je sais pas, je te donne un exemple, tu veux partir en Grèce avec ta copine, vous avez l'idée de partir en Grèce. Bah, tu vas t'apercevoir que si tu parles deux fois par jour avec ta copine de la Grèce, bah, tout d'un coup, tu te dis, tiens, c'est bizarre, j'ai vu un truc, une émission sur la Grèce, tiens, on était dans la rue, il y avait une agence de voyage qui parlait de la Grèce. Mais pourquoi? Parce que ton cerveau, il a entendu l'information et il cherche pour toi. T'es dans le radar, il cherche. Donc, s'ils cherchent tel radar et que tu commences à avoir une information, c'est comme si quelqu'un qui te dit, allez, on joue dans la voiture au Renault 5 verte. T'as déjà fait ça quand t'étais petit. Ouais. Tu vois, papa, maman, et au bout d'un moment, tu vois que ça, tu remarques que ça.
Forcément, ouais.
Ben oui, parce que tu t'es focusé. Donc, l'important, c'est quel est ton focus? Et si tu ne te regardes pas, qu'est-ce que je suis en train de regarder en ce moment? Quand je te parle, Marvin, je sais parfaitement, parce que j'ai l'habitude, quels mots sortent. Même si à un moment donné, je dis, ils ne vont pas me casser les couilles. Je le prends parce que je sais que j'utilise une énergie un peu marrante. Tu vois? Mmh. Mais par contre, il se peut que si tu commences à me dire, je ne sais pas quoi, un exemple, tu as vu ce connard de Trump? Même si, alors, tu vois, je vais pas parler avec toi. Je vais dire, tu sais quoi? je vais faire attention à ce que je vais dire. Non pas que c'est dangereux, mais je vais dire, tu sais, il me semble que Trump va être utile. Alors là, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il dit, Pierre-Alain ? Trump va être utile pour nous montrer ce qu'on ne veut absolument pas. Tu vois ? Donc, quelque part, il y a un cadeau derrière toute chose et de toute évaluation. Et c'est ce que dit Nelson Mandela et qui a été repris par Barack Obama. Et ils disent souvent, soit je réussis, soit j'apprends. Oui. Pas d'échec. Pas d'échec, que des expériences. Donc voilà, si tu veux savoir un peu ma manière de penser, elle part de là. Elle part du focus. Comment je parle, quels sont les mots que j'utilise. Et de plus en plus, il y a 20 ans, j'aurais pas parlé comme ça. J'aurais eu ce genre de discours, mais j'aurais fait non pas plus de fautes, parce que ça ne s'appelle pas des fautes, mais j'aurais eu moins l'habitude. Je serais moins dans comme un Roger Federer qui, à 20 ans, eh ben, était moins fort que maintenant. Bon, c'est bientôt la fin, mais ou Lewis Hamilton. Tu vois, enfin, je suis un fan absolu. Mais Lewis Hamilton, tu vois, je veux dire, c'est comme tous les grands champions. C'est le focus. Focus. Et je dis souvent, les gens, je reviens au tennis. Je ne sais pas si tu joues au tennis ou pas, ou mettons.
Parfois, basket, rarement.
Non, mais tu connais un peu comment ça marche. Ouais. Imagine-toi, parce que 80% des gens ont l'esprit de quoi ? Je veux jouer au tennis, mais je ne veux pas perdre. Ah bon ? Est-ce que tu as déjà vu le plus grand joueur de tennis de tous les temps, un Djokovic, un Nadal, un Federer, ne jamais perdre une balle, ne jamais perdre un set, ne jamais perdre un match, ne jamais perdre un tournoi? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et quand tu remarques ce que tu veux dans ta vie, tu ne veux pas perdre. Ils sont où les risques que tu prends? Et non, il faut se dire, ah ben, super, je tente. Et tu tentes une fois, ce que je dis à ma fille en ce moment, on tente quelque chose, ça ne marche pas, on a ouvert une porte, on la referme, aucun souci, on a appris. Et tout ça est une histoire, alors là j'en reviens sur la base de ce qu'on a démarré, la base c'est donc comment suis-je à l'instant même en train de penser. Comment, au moment, c'est pour ça que tu me demandais… Un truc marrant, tu me demandais, tu lis plus, par exemple. Enfin, tu me demandais ce que tu lis.
Non, tu n'écris plus, ouais, de livres.
Je n'écris plus, mais je ne lis plus de romans parce que je ne suis plus dans ce mood-là. Parce que, ou je ne regarde pas de séries, par exemple. Très rarement. Parce que moi, regarder la télé, ça ne veut pas dire que je suis focus et que je suis accroché au mental, qu'il faut que je travaille. Non. C'est qu'à un moment donné, les infos, je ne les regarde plus jamais. Ouais, qu'est-ce que ça m'apprend?
Bon conseil,
ça. Rien. Ça m'apprend rien du tout. En plus, les infos, c'est facile parce qu'il y a de plus en plus de monde qui ne regarde plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, je vais optimiser mon temps. Encore une fois, je vais me coucher. Moi, je dors très, très peu. Hein. Je dors deux fois une heure et demie. Donc, tu vois,
c'est vraiment pas beaucoup.
Ouais. Non, deux fois deux heures et demie. Ça fait à peu près 5 heures, 6 heures de sommeil, pas plus.
Ouais.
Mais je me réveille toujours en pleine nuit, toujours. 2h30, 3h. Mais quand je me réveille, jamais je me dis que je suis en insomnie. Jamais. Mais je pourrais dire que je suis en insomnie. Donc, je serais en combat et en guerre civile avec moi. Non, j'optimise mon temps. Mais ça veut dire aussi que tu peux optimiser ton temps en donnant de l'amour à ta fille, à la mienne, ou les gens que t'aimes. Tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment donné, c'est comme l'histoire de la pluie ou de Trump. Si quelqu'un me dit « Non, t'as vu machin ?» Non, j'ai pas vu. Je m'en fous. Ça me casse les bonbons. T'as vu comme il pleut ? Non, ça ne me concerne pas. Donc, on en revient au tout début de ce qu'on disait. Tu me dis « Mais comment je peux faire, moi, Marvin ?» C'est marrant parce que Taïo, c'est quelle origine ?
Taïo, ce n'est pas mon nom de famille, c'est mon nom Facebook. Bon. Je me connecte à Facebook et je n'ai pas mis mon nom de famille, mon vrai nom de famille.
D'accord. Et donc, tu me posais la question, mais comment ? Eh bien, on ne peut progresser dans le monde extérieur qu'en progressant dans le monde intérieur. Ton mental est là pour te dire quelle direction je prends. C'est quoi la fréquence que je prends ? C'est mon mental qui dit, je vais écouter de la musique classique, 107.7. Je vais écouter du funk, 95.2. Je vais écouter du truc. Mais pendant que j'écoute 107.7, pendant que j'écoute 107.7, si j'écoute du funk ou de la musique classique sur 107.7, j'ai du Vivaldi, par exemple, ou du Mozart, ou du Brahms, etc. Mais si je mets du funk en même temps ou de la soul, si j'ai Marvin Gaye, même si c'est super bien, j'entends plus rien. Ça. Et si j'en ai une troisième, cacophonie, Donc, observez ce que vous écoutez toute la journée. Et si, et encore, je te parle de musique classique, c'est plutôt beau, ou du funk, ou Marvin Gaye, c'est plutôt le très, 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 très haut du panier. Mais si tu es là et tu penses à la haine, si tu penses au fait que tu es énervé pour tel genre de choses, si tu penses au fait que tu n'as pas d'argent dans le manque, c'est comme si l'univers te disait « Je ne peux pas faire autre chose, tu penses qu'à ça, mon gars. » Est-ce que ton émotion, c'est une émotion de richesse, même si tu n'en as pas? Donc, on change l'émotion de richesse en gratitude pour ce qu'on a. Une copine, des parents, de l'eau chaude, le fait de pouvoir regarder la télé, des Netflix, tu vois, ce genre de trucs. C'est dit, vous vous levez le matin en vous disant merci. Ouais, mais le monde ne va pas. Ah bon, le monde ne va pas? Alors, je vais vous faire un petit cours d'histoire. Le monde ne va pas? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Oui, il y a l'histoire du Covid. Je te fais un rapide cours d'histoire. Il y a 80 ans, on t'aurait dit que t'es dit héros. Je te les cite, hein, t'es dit héros il y a 80 ans. Est-ce que t'es dit héros il y a 80 ans? C'était Barack Obama, Nelson Mandela, Michael Jackson, Prince, Michael Jordan, Kobe Bryant, Lewis Hamilton, je sais pas, je peux t'en trouver des milliers, LeBron James, Michelle Obama, etc. Tiens, ils sont tous blacks. Ah oui, parce qu'il y a 80 ans, c'était normal qu'ils soient au bout d'une corde. Et c'était normal. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a 50 ans, je ne parle même pas il y a 80 ans, il y a 50 ans, qu'est-ce qu'on offrait aux femmes françaises? Eh bien, une femme française doit avoir une belle machine à laver. C'était comme ça. Et il y a 150 ans, un gamin qui avait 6-7 ans, il était dans une mine. C'est ça que vous dites? C'était mieux avant, les gars? Oh,
va falloir un livre, peu monter. Il y a un livre d'ailleurs de Michel Serres qui parle de ça, qui s'appelle « C'était mieux avant ».
Ah oui,
traite exactement de ça.
Et je l'ai jamais lu. Ouais, jamais.
Il est excellent. Il y a aussi, moi, ce qui m'a plus côté santé, il y a la mortalité des enfants de moins de un an qui, il y a un siècle, était monstrueuse.
Et qui était normale.
La peste aussi, si on compare la peste au coronavirus.
Bien sûr. Mais ne serait-ce que tu te lèves le matin et tu peux te raser avec des triples lames, tu te dis, ah bah ouais, d'accord. Et puis l'eau chaude, vas-y, retourne en arrière, il y a 55 ans. L'eau chaude, elle n'arrivait pas avec des trucs comme ça. Donc, tout ça fait que encore une fois, et je ne critique pas ça, évidemment, ce que je dis, c'est que je pointe le truc. Et je pointe quoi? Je pointe le fait de dire, réfléchissez. Faites attention aux mots que vous dites et surtout aux pensées qui sont accolées à ces mots et aux émotions qui sont accolées à ces pensées et ces mots. Parce que c'est très facile d'écouter quelqu'un. Ah, ça va? Ouais, ça ne va pas en ce moment. Ah bon?
C'est souvent ce qu'on entend.
Non, mais tu veux dire, donc, quelque part, tu prends l'habitude. Puis, au bout d'un moment, en fait, c'est l'histoire de fréquence, encore une fois. Et ben, tu vas t'apercevoir que, oui, d'ailleurs, ça arrive très souvent quand tu commences à travailler intérieurement, ben, tu quittes certains amis ou certaines connaissances ou certains amoureux ou amoureuses. Pourquoi? Parce que ça ne te correspond plus.
Ouais. Ça ne te correspond plus. Il y a plein d'histoires. Ben, j'ai vu il n'y a pas longtemps l'histoire de Lola Montes. Je ne sais pas si tu connais cette personne qui était. C'était au siècle dernier, elle allait à chaque fois vers des... Comment ?
Chanteuse ?
Non, elle était chanteuse, elle était danseuse, après elle a été femme de joie. Ouais, et ouais. À chaque fois qu'elle rencontrait un mec, les mecs tombaient éperdument amoureux d'elle et ils mouraient ou il y avait des problèmes. Elle a même mis l'Allemagne en feu parce qu'elle était toxique auprès de ces mecs. Ils avaient à chaque fois des nouveaux problèmes. L'histoire de cette femme est exceptionnelle. Et il y a même des études qui montrent que, par exemple, si tu as beaucoup de fumeurs autour de toi, bah, tu as plus de chances de fumer. Si tu as des gens plus obèses autour de toi, bah, tu as plus de chances d'être obèse, etc. etc. Et l'importance de l'entourage.
Après, c'est censé que si tu travailles ça intérieurement, c'est censé normalement toute chose qui te traverse dans ta vie est censée t'enseigner quelque chose. Elle est tout à fait voilà. Si tu passes ton temps à être avec des manipulateurs, c'est qu'il y a un problème en toi, de toute façon.
Ouais, il faut toujours regarder. Pardon, excuse-moi.
Non, vas-y.
Ce que je retiens de ce que tu dis, c'est vraiment arrêter déjà de regarder les autres, se regarder soi-même et tourner aussi, éviter de voir le négatif. Après, il y a aussi, tu sais, le biais de négativité qui est là et qui existe et qui nous emmène vers ces trucs négatifs où on a plus tendance. Par exemple, quand on regarde les articles du Monde qui ont le plus marché, c'est que des articles avec des trucs négatifs. Les journaux l'ont très bien compris. On est attiré par le négatif.
Mais on est attiré. C'est ce que je dis aux gens. T'es attiré, mais t'es pas attiré. Tu t'attires. C'est là où je dis la principale chose, c'est quoi votre responsabilité? Vous avez la baguette d'Harry Potter avec vous. Vous avez la baguette. Les gens, ils font, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça, c'est une souris, mais c'est votre zapette de télé. Ah bon, vous aimez, tu te plains parce que BFM te dit des conneries, mais fais ça, c'est tout, t'as que ça à faire. Arrête de me casser les couilles de dire que les infos c'est de la merde. Ne regarde pas les infos.
Ouais, clairement.
Mais il y a un moment donné, c'est du basique quand même, hein. C'est du très basique. Oui, mais faut regarder ce qui se passe. Ah bon? Faut regarder ce qui se passe. Tu crois pas que tu seras de toute façon au courant s'il y a vraiment un truc incroyable qui arrive.
Ça, c'est un truc que j'ai fait il y a un an exactement, où j'avais la même réflexion. Je me suis dit, mais mince, j'ai besoin de savoir. Parce qu'en fait, depuis que je suis petit…
Pourquoi j'ai besoin de savoir?
Exactement. Et depuis que je suis petit, j'ai les infos. On me disait, j'ai besoin de savoir. Puis en fait, j'ai coupé de mon téléphone toutes les applications de news. J'avais plus de télé non plus. Nous, je pense que les jeunes, on a tendance à moins avoir la télé. Et j'avais plus accès aux news. Et en fait, j'ai découvert que rien ne me manquait. Parce que les trucs les plus graves ou les plus importants ou les trucs à savoir, on me le disait.
De toute façon, à un moment donné, on te le dit. Si le président, si Joe Biden qui est là, tu le sais au bout de trois jours.
Typiquement, Biden, Trump, on m'a dit quand Biden a gagné, on m'a dit Biden a gagné, donc je le savais, voilà.
Voilà, donc pour moi, c'est… Alors, il y en a qui disent « Ah oui, mais c'est de l'égoïsme ». Mais parfaitement, c'est parfaitement de l'égoïsme. Ouais, mais c'est un égoïsme. Non, mais c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Mais ce n'est pas de l'égocentrisme, ce n'est pas la même chose. C'est un égoïsme qui dit je ne fais pas attention à mes ennemis, je garde de l'énergie pour mes amis. Quand je dis mes amis, c'est les gens avec qui je vais pouvoir partager selon mon propre pouvoir. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la peine d'être un Don Quichotte. Quelqu'un qui se lève le matin en disant putain, mais Macron a encore fait des conneries, qu'est-ce que c'est que ce Trump? Mais attends, est-ce que tu peux y faire quelque chose? Par contre, à ton niveau, à toi, ta manière de penser, ta manière d'être, pourquoi ensuite les gens vont venir vers toi en disant « Ah, Padge, j'aime bien ta façon de penser, c'est cool. » Ah bon? Mais moi, je fais rien d'autre que d'être moi. Hein. Et arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre, c'est déjà pris.
Ouais,
c'est Oscar Wilde. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. Les gens, ils disent c'est une simplicité. Oui, parce que tout est de plus en plus simple là-dessus. Et ce n'est pas tendre la joue droite, bien que ça puisse être possible. Quand on t'a comme balancé, il faut être centré. C'est quoi t'es, je dis tout le temps, quand vous avez une fille, quand tu auras des enfants, ça sera ça. Et que de toute façon, ta fille est malade, qu'est-ce que t'en as à foutre excusez-moi pour l'expression, qu'est-ce que t'en as à foutre des news? Il n'y a rien qui va être aussi important que l'amour que tu vas porter à ça. Donc, au lieu d'attendre que ta fille soit malade, fais-le sans que ta fille soit malade. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Le mec s'énerve, t'as vu?
Ouais, non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Et on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Il y a deux questions que je pose à la fin. C'est quel conseil tu donnerais au jeune Padge qui part à Paris faire de la musique?
Pas de conseil. Je lui dirais tout va bien se passer.
Imaginez la réponse, ouais. Donc, ouais. Tout va bien se passer.
Non, mais j'aurais voulu que le Padge... j'allais dire ancien ou ça, je sais pas. Le patch de maintenant se rencontre sur un banc et lui parle comme je viens de te parler. Voilà, la même chose. Et qui dit, parce que personne ne m'a parlé comme ça, c'est ça que je veux dire, quoi. Et tu vois, une sorte de rencontre sur un banc en disant, tu sais que je te connais. Dire, bon, vous me connaissez? Ouais, je te connais parce que je suis toi dans 50 ans. Ou 40, et j'aurais posé la question, et mais alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il dit, ouvre ton esprit, fais attention comment tu penses, fais attention comment tu... J'en viens à cette histoire de pensée, d'émotion. C'est très simple, hein. Il n'y a pas plus simple que ça, c'est plus difficile en même temps, mais il ne faut pas dire que c'est difficile parce que ça pourra le devenir. Attention à vos émotions. Votre pensée, c'est votre radar. Mais votre émotion, c'est l'ordinateur entier. Je suis trop fort.
Wow. Mais si on pouvait résumer là en trois mots, parce que c'est la dernière question, les trois mots, c'est trois valeurs qui ressortent de tout ce que tu m'as dit là, les trois grandes valeurs de Padge, du Padge.
Conscience, gratitude, amour. Voilà.
Conscience, gratitude, amour. Super. Mmh. Bon, on est presque pile dans le temps, il est 28. Merci.
On dirait Jésus alors que je suis fudge. <C'est dingue. rire> Tu me diras, Jésus était fudge, mais je suis pas Jésus, je suis pas du tout.
Ouais, il a changé.
Pas du tout dans le catholicisme, hein, du tout.
Merci beaucoup en tout cas. Merci. Comment on peut te suivre? Comment on peut te retrouver? J'ai parlé de TikTok,
Un petit peu partout, tu sais. Alors j'ai deux voire trois chaînes YouTube. Enfin, les deux principales, c'est la chaîne YouTube Page où là c'est beaucoup, beaucoup de vidéos sur la voix, le travail en studio. On fait des ce qu'on appelle les blabla Page. Ce sont des émissions avec des voix connues. On fait des battles de doublage. C'est vachement bon enfant. C'est très sympa. Il y a des reportages. Le dernier gros qu'il y a eu, c'est sur mon copain Patrick Poivet qui est décédé maintenant, qui était la voix de Bruce Willis, mais qui est une belle émission. Ça, c'est la chaîne principale. La deuxième chaîne, c'est Page Spirit. Donc, Page Spirit, c'est ce qu'on vient de discuter, un peu la spiritualité avec toute une partie, même si ça se retrouve aussi dans la première chaîne, sur les vidéos, ce qu'on appelle les vidéos qui font du bien. C'est vraiment des vidéos, je prends un thème et je développe pendant. C'était assez beau, hein. Faut aller voir ça, parce que ça aide beaucoup de monde, en fait. J'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disent « Oh là là, je m'endors avec ça, ça me fait tellement de bien. » Voilà, donc c'est par exemple, je te donne des thèmes, accepter l'imperfection, dire oui, être en amitié avec soi-même, etc. C'est beaucoup inspiré des travaux de Rick Hanson, pour ceux que ça intéresse. Ça, c'est ça. Bon, j'ai la Patch TV où on a toutes nos émissions Twitch qui sont mises un peu en stock, mais c'est simplement pour les revoir. Et donc, le patch officiel sur TikTok. Et surtout, ça, c'est mon grand plaisir. Il y a depuis 20 jours, exactement 20 jours aujourd'hui, 20 ou 21 jours aujourd'hui, j'ai été ce qu'on a discuté. C'est-à-dire, j'ai fait Patch Spirit. Et où je en 60 secondes, je prends des thèmes et je les développe avec ma voix, la musique, etc. Et ça, c'est intéressant. Voilà mon
on peut te retrouver là-bas.
Voilà. Écoute, si tu veux venir sur le chat du, on va chatter sur la chaîne Twitch tout à l'heure.
Il faut que je m'y mette à Twitch. Je connais pas encore très bien. Tu sais, je pense que c'est un peu un truc à la base plus pour les gamers. Moi, je suis.
Oui, moi aussi, je suis pas gamer du tout, hein.
Et j'ai appris à découvrir un peu Twitch pour d'autres raisons. Et j'aime bien, c'est sympa, c'est un peu la nouvelle télé, mais beaucoup.
Plus c'est la nouvelle facile. Télé. Nous, on a nos rendez-vous, tu vois. On a commencé hier.
Il y a les love affaires, c'est ça aussi.
Les love affaires, voilà, c'est ça. Donc on fait. Alors aujourd'hui, il y en a pas parce que je te dis, Arnaud Clerc, qui est un producteur, il est malade, donc il peut pas. Donc je vais voir. J'ai toute ma team qui est là. On se pose des questions. C'est très sympa, voilà.
Ok. Bon, on okay.
Allez, je vais aller me reposer un peu parce que c'est dans une demi-heure. Merci Marvin, ça m'a fait super. Et j'embrasse tout le monde. J'ai été peut-être un peu, j'ai parlé peut-être vite, un peu fort peut-être aussi, j'en sais rien.
Ouais, mais il y avait beaucoup d'informations à donner. Et là, j'ai encore plein de questions dans ma tête. Je vais parler comme ça, c'est super.
On en fera une autre. Tu me diras comment ça marche et puis on en fera une autre, d'accord?
Ah bah super. Je te souhaite une bonne soirée.
Allez, salut, je t'embrasse. Ciao. Au revoir tout le monde.
Ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche à oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis.